Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est maintenant l'heure des oreilles loin du front. Alors ce soir dans les oreilles, on reçoit Delphine et Sybille qui sont toutes les deux membres du ministère des Bonnets d'Âne, ce collectif des parents d'élèves qui s'est constitué en 2014 pour protester contre le manque de moyens alloués à l'éducation dans le département de Seine-Saint-Denis dans le 93.
Demain sera un autre jour.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, tu trouveras l'amour.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, la chance tournera.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, la vie vous sourira.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, on nous dira demain. Sera toujours demain.
Oh, qu'ils sont nombreux les demain.
Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain, en demain s'éternise. Demain, fuit qui le poursuit. Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain, en demain s'éternise. Demain, décourage aujourd'hui.
Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain, en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain, en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui.
Demain j'arrête, c'est promis. C'est sûr, on vous l'a dit.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, ceci, demain, cela.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, demain, j'entends que ça.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, nous disons tous demain.
Quand c'est qu'arrivera demain.
Demain sera toujours demain. C'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui.
Demain c'est la terre promise.
Dans les oreilles loin du front avec Demain, Demain. Et ce soir, on est en plateau avec nos deux invités, Delphine, bonsoir.
Bonsoir.
Et Sybille, bonsoir.
Bonsoir.
Du ministère des Bonnets d'Âne. Donc le ministère des Bonnets d'Âne, peut-être certaines de nos auditrices et certains de nos auditeurs voient à peu près ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est exactement? De quand date le collectif? Voilà. Qui êtes-vous?
Alors, qui on est? Donc nous, en fait, on est des parents. On est les parents d'élèves de primaire de Saint-Denis, voilà, de Saint-Denis.
Et donc on de la ville de Saint-Denis.
Ouais, de la ville de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis donc. Et on était chacun dans nos écoles, voilà. Il se trouve qu'on, pour certains d'entre nous, on se connaissait, qu'on était plus ou moins amis, et que régulièrement dans les soirées, on se retrouvait pour se dire combien c'était la galère de pas avoir d'enseignants, de pas avoir de moyens, de voilà, enfin le truc un peu habituel que je pense tout le monde connaît et qui malheureusement est maintenant un peu répandu dans toute la France. Mais il y a eu un truc qui s'est passé à la rentrée 2014, donc c'était il y a deux rentrées quoi. Qui est que certains d'entre nous, on s'est retrouvés, donc moi par exemple, je suis arrivée le matin dans la rentrée scolaire, donc la rentrée scolaire pour les gens, les parents qui ont des enfants, c'est le truc quoi, c'est le truc à pas louper, on en parle des jours avant et tout, c'est super quoi, voilà, c'est le grand moment des enfants. Et on était là dans la cour d'école et il se passait rien. Tous les autres enfants, ils sont partis en classe, puis nous on attendait, voilà, en se disant, bah, qu'est-ce qui se passe, elle est où la maîtresse, il est où le maître? Et en fait, on n'a jamais eu, nous, de maîtresse ou de maître, ils ne sont pas venus. Et on a compris, mais il a fallu un peu de temps. Enfin, donc nous, on est tout de suite allés à l'inspection en disant, bah, comment c'est possible quoi. D'habitude, c'est le genre de galère qui arrive, mais tu vois, plusieurs semaines, plusieurs mois après, dans le problème de remplacement. Mais là, de ne pas avoir d'enseignant dès le jour de la rentrée, c'est un truc inédit.
Et il n'y a pas la directrice ou le directeur qui est venu expliquer?
Ah bah si, puis bah, non, mais alors d'abord, je pense qu'ils étaient bien embêtés, quoi. Tu vois, on a bien compris, en fait, que c'était un truc qui n'était pas normal et que c'était surtout que ce n'était jamais arrivé. Parce que la directrice était effectivement très embêtée, n'arrivait pas à nous donner d'explications et surtout n'arrivait pas à nous dire quand est-ce qu'on aurait un enseignant. Donc nous, on est tout de suite allés à l'inspection et moi, ça m'a vraiment énervée. Avec d'autres parents, on était là en train de commencer à entendre des bruits comme quoi on n'était pas la seule classe concernée, qu'il y avait d'autres classes et que quand on disait bah, comment c'est possible, enfin, c'est un truc, c'est pas possible, quoi. Le jour de la rentrée, on n'a pas d'enseignant dès le jour de la rentrée. La seule réponse qu'on a eue, c'est vous savez, vous habitez quand même dans un endroit où c'est compliqué, où les gens veulent pas venir. Donc ça faisait vraiment, c'est-à-dire c'est nous qui sommes coupables d'habiter là où on habite et on doit s'excuser d'habiter où on habite, quoi. Donc c'était un truc qui, je pense, on a énervé, enfin c'est, voilà, c'était vraiment de l'énervement. Et on en a discuté comme ça en se disant bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme d'habitude? On occupe l'école comme d'habitude? Enfin, comme d'habitude. C'est, ouais, effectivement, c'est devenu une habitude. On écrit à l'inspection, on appelle l'inspection. C'est des modes d'action qu'on a chacun eu dans nos écoles et dont on voyait bien que c'était limité. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse autre chose et qu'on fasse autre chose où la situation était tellement désespérée qu'il fasse quelque chose où on s'amuse. On n'était pas juste dans le misérabilisme ou dans le truc où on se met tous à pleurer parce que sinon on se tire tous une balle. Mais il fallait aussi qu'on s'amuse. Et donc, on a discuté, on a beaucoup bu, on a beaucoup rigolé et on s'est dit qu'on allait occuper une friche. Voilà. Donc, le truc de départ, c'est ça. On s'est dit, en novembre, on occupe une friche juste pour essayer de faire parler du truc et essayer de rencontrer d'autres parents, d'autres gens qui, comme nous, sont confrontés à une galère dès la rentrée scolaire. Et donc, ça a commencé comme ça.
Parce qu'en plus, ça peut poser des problèmes, ça, pour des parents qui travaillent. Ou... En principe, quand les enfants vont à l'école, c'est...
Enfin, voilà, ouais, alors ça, c'est quelque chose qui... Donc là, qui se jouait le jour de la rentrée même, mais que cette année, on revit avec les absences non remplacées, ou cette année, on a un enseignant à mi-temps qui est un enseignant stagiaire qui débute, puis pour l'autre mi-temps, ils ont trouvé personne pour compléter, donc il n'y a pas école la moitié de la semaine, etc. Et ça, effectivement, ça a des conséquences, bon, pour les enfants, on en reparlera, mais ça a des conséquences pour les parents. C'est-à-dire que l'an dernier, on a commencé à avoir des parents, souvent les mères, évidemment, qui se mettaient à temps partiel, qui aménageaient leur temps de travail, après avoir pris un jour de congé, deux jours de congé, etc. Puisque dans ces cas-là, on peut laisser les enfants à l'école. Ils sont répartis dans les autres classes. Donc ça, déjà, ça pèse sur les autres classes. Bon. Mais aussi, ça va un jour. Le gamin, il fait des dessins au fond de la classe. Ça va deux jours. Et puis à force, il y a des parents qui se disent ben, « Laissez mon gamin dans une autre classe la moitié de la semaine, ça va pas. Le gamin s'ennuie. il s'énerve. Donc à la maison aussi, il est plus pénible. » Et puis les parents s'inquiètent sur aussi le contenu qui est censé être transmis aux enfants. Et voilà, et moi j'ai le souvenir d'une maman comme ça qui a expliqué à l'inspectrice que voilà, qu'elle, elle avait pris un temps partiel pour pouvoir, la moitié de la semaine, essayer de donner des cours à sa fille. Voilà, donc ça a effectivement des conséquences assez graves parfois sur notamment l'activité professionnelle des femmes, quoi.
Ouais, on y reviendra. Et alors, du coup, vous avez occupé cette friche. Mais enfin voilà. Après, c'est qu'est-ce que ça a donné du coup cette occupation? Vous êtes rassemblés, puis après vous avez commencé à élaborer aussi des modes d'action un peu ludiques, revendicatifs en même temps.
Et ben en fait, une fois qu'on est arrivé sur le terrain, donc déjà l'installation sur le terrain en soi, c'était assez marrant. On s'y est mis un dimanche, donc la veille de la rentrée. On a commencé par faire de la construction. On a arraché des mauvaises herbes, on a construit un bar et une espèce de cabane au fond.
C'était un peu de nuit debout.
C'était un peu le nuit debout de l'éducation à Saint-Denis. Voilà,
on est précurseurs.
Et effectivement, on l'a occupé pendant 15 jours, jour et nuit. Pendant 15 jours, il y avait des gens qui dormaient tous les soirs dans le ministère, donc cette cabane au fond du terrain. Et en fait, ce à quoi on ne s'attendait pas forcément, c'était que le fait de rester là longuement nous a permis de rencontrer... alors après, on faisait un roulement, hein, mais ça nous a permis de rencontrer plein de gens, des parents d'autres quartiers de la ville, des parents d'autres villes, des instits, des enseignants aussi contractuels. Donc qui était le recours aux enseignants contractuels dans le primaire, c'était une partie du problème parce qu'ils étaient balancés devant les classes comme ça sans formation. Ils sont venus témoigner. Et puis ouais, sur place, on a organisé des modes d'action. On a fait une espèce de fausse embauche de profs. C'était une opération adopteunprof.com. On a fait ça avec des comédiens, on a fait des concerts, on faisait aussi on a fait le centre aéré, c'est-à-dire qu'on organisait des activités pour les enfants au ministère avec des expériences scientifiques, des trucs assez variés. Comme ça, les parents venaient, on discutait avec des parents qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Et puis on voyait les enfants du quartier aussi. Il y en a qui ont pas mal investi le truc. Et on a fait aussi donc un match de foot entre les dégommeuses et les enfants du quartier, les garçons du quartier. Bien dire, c'est les dégommeuses qui ont gagné à la fin. Et
c'est une asso de foot lesbienne, qui regroupe pas mal de lesbiennes.
Ouais. Et donc qui lutte contre l'homophobie et le sexisme dans le football. Et puis on a organisé aussi du coup depuis ce ministère, mais en relation du coup avec les enseignants, les syndicats, d'autres, on s'est retrouvé en relation avec les AFCPE. Parfois compliqué, mais relations quand même. Un collectif aussi de parents qui s'était monté quelques années avant, qui s'appelait le collectif des parents citoyens du 93. Et du coup, on a eu une grosse journée de mobilisation. C'était le 20 novembre, je crois. On a fait une grande manif dans Saint-Denis, puis une manif à Paris. Et puis après, plus tard dans l'année, mais là, on n'avait plus notre ministère sur place. On a fait d'autres actions, on a fait la recherche... On a cherché des pièces en chocolat dans le quartier latin, etc.
Et là, du coup, plutôt au début, quand vous occupiez la friche, vous étiez à peu près combien de parents vraiment mobilisés en fait dans le ministère des Bonnets d'Âne? Combien de ministres en fait?
Une trentaine, je crois. Un peu comme.
Ouais, après, c'est le principe du collectif, ouais. Donc c'est hyper... en fait, c'est ça le truc qui était vachement bien, qui a fait que je pense les gens sont venus petit à petit et il y a eu de plus en plus de monde, c'est qu'on n'a jamais... Les gens viennent et apportent ce qu'ils veulent. Donc il y avait des gens qui se sont occupés de la communication, des gens qui se sont occupés de trucs artistiques, d'autres d'animation pour les enfants. Donc c'était hyper variable et chacun s'est emparé de ce qu'il avait envie de faire. Il y a aussi pas mal de gens qui ont bossé sur les témoignages en essayant d'aller à la rencontre de parents pour recueillir des témoignages sur la situation, sur ce qu'ils vivaient au quotidien, ce que les enfants vivaient. Donc en fait c'est hyper variable et c'est compliqué de dire, en gros ouais, il y avait un noyau d'une vingtaine, trentaine de personnes, mais c'était en fait on a réussi à agréger pas mal de monde sur selon les actions en fait.
Et cette friche du coup, c'était un peu formalisé votre occupation ou c'était genre vraiment comme ça et personne ne vous a rien dit, enfin la municipalité n'a rien dit
Non, alors
ou au contraire si.
C'était improvisé, semi-improvisé, c'est-à-dire qu'on avait quand même fait une liste des gens qui étaient là de façon certaine ce jour-là pour aider à monter les installations. On savait qu'une fois qu'on avait monté les installations, on était plus difficilement délogeable puisque c'était illégal. On s'est fait aider notamment par le centre social autogéré qui s'appelle Latieke, qui était juste à côté. Et non, c'était illégal très rapidement. On a eu la visite d'un huissier. Il y a eu un procès. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a quitté le terrain. À un moment donné, on a négocié avec la mairie, qui était en partie propriétaire du terrain, qui nous permettent de rester, en gros, jusqu'à Noël sur le parvis de la basilique. En échange de quoi, on a quitté le terrain. De toute façon, il faisait de plus en plus froid aussi, donc on savait qu'on ne resterait pas éternellement jour et nuit sur ce terrain. On n'avait pas de chauffage. Et voilà, mais donc c'était illégal. On savait qu'il fallait qu'on construise vite quelque chose dessus. Et en fait, on a eu de la chance, ça s'est bien passé.
Donc cette expérience friche puis parvis de la basilique, ça a duré en gros entre fin de novembre jusqu'aux vacances de Noël.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ok. Et tu l'as dit tout à l'heure, mais ça concerne du coup votre mobilisation. En tout cas, au départ, ça concernait que les élèves de l'école primaire. Enfin, les moyens pour les élèves de l'école primaire.
En fait, ouais, c'était vraiment maternelle et primaire. Nous, on est des parents. Alors après, t'as des parents qui ont des enfants au collège, mais là, le truc, c'est qu'on s'est centré sur les problématiques qui sont un peu communes de maternelle et primaire. Au départ de Saint-Denis, et puis bon, évidemment. Le bordel, c'était à Saint-Denis à la rentrée 2014, mais évidemment, ils ont après mis des moyens sur Saint-Denis parce que c'est là où on criait le plus fort, et ils ont déshabillé les villes alentours. Donc, assez rapidement, on a fait le lien aussi avec des parents et des collectifs existants sur les villes alentours.
Et par rapport à des parents de collégiens, c'est pas les mêmes questions ou ça s'est jamais vraiment posé ou...
Alors, le truc, c'est que nous, le noyau, on a tous nos enfants dans le primaire, donc maternelle et élémentaire. Et puis, il y a le fait que... et ça, on va voir ce qui va se passer, parce que nos enfants, ils vont grandir, on va arriver aussi au collège. Mais c'est vrai qu'au collège, c'est hyper dur, les parents qui essayent de se mobiliser, parce qu'en fait, en maternelle, on rentre dans l'école, on amène son enfant jusqu'à l'entrée de la classe, donc on croise l'enseignant, on croise les autres parents. En maternelle, en élémentaire, on les accompagne devant l'école, et puis on repart. Après, ils se mettent à aller tout seuls à l'école. On voit de moins en moins les parents. Au collège, il y a quelques parents qui emmènent leurs enfants et qui viennent les chercher, mais
les enfants ont honte.
Donc, les contacts sont de plus en plus épisodiques. Et du coup, pour se mobiliser, c'est vraiment compliqué. Alors, il y a quelques parents de collège qui sont venus nous voir, qui nous ont dit qu'il faut se mobiliser aussi sur le collège. On sait qu'il y a des problèmes aussi lourds dans le collège. Après, je pense que c'est aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que dans le primaire, quand il n'y a pas d'instit, c'est vraiment la grosse, grosse galère pour tout le monde pour toute la journée. Parce que l'instit, il a en charge la classe en permanence. Quand il y a un prof qui est absent, on s'en rend un peu moins compte parce que c'est une heure, deux heures dans la journée. Et puis un collégien, il peut s'occuper tout seul. Donc ça passe un peu plus inaperçu. C'est sans doute pour ça aussi que là, la mobilisation, elle a été forte sur le primaire.
Voilà, on est avec Delphine et Sybille du ministère des Bonnets d'Âne sur Fréquence Paris Pluriel. Ask your mama what it's all about. Don't look at me, I'm just a rapper, nothing more than that. Then what you doing with a mic in your hand? You gotta give a little something, you a puppet or man? Ask your teacher what it's all about. Don't look at me, I'm just MC and nothing more than that. Then what you doing on the podium selling people phony ass shit like a Zodiac shrink? I gotta use verse strong for you. I got a two verse song for you. But you don't want truth. You want a groove that'll offer you a chance. Not your own issues, let's go. Now when the opportune appears once in a lunar year, it's too severe for you to hear. The truth is here, the doomy version. Volume's the word, move suburban crews. No use to burn them, rather use the verbal attributes to learn them like the schools asserted. They students learn, but the rumor surfaced that the universe is only school the fervent with the youth disperses. I do the work and kill the bills too, like Uma Thurman. Give me loot, convert it into soup, I eat if you prefer it. For more than shoot and murder, blacker, who deserve a proper shot of fruit preserver like a barbecue and burger. World up, the purpose serve, work the nerve of a CEO interpreter who's sitting on the verge of what only he knows the worth, because CDs afford him earnings, so he bleeds me to the vertebrae. I heard him say that the word I spray get him nervous, days confused. They say it's rude, I wanna get paid a few, so go ahead. Ask your mama what it's all about. Don't look at me, I want the money, so just cough it up. Then what you doing with a mic in your hand? You gotta make use of the music, you a puppet or man? Hey, Uzu mama guti wenza galani, unga tembela bombrapa bona bafuni mali. Say what? Then what you doing on the podium selling people phony ass shit like a Zodiac shrink? After the show, there's always a couple that wanna know how you mapping your flow and where you wanna go in 6 years after. What's your vision for Africa, man? I'm just a rapper, give me a break, stop that. When you at a stoplight, see your favorite rock star. He ain't got the answers to your love life, stop that. You better off calling your moms or strolling along. Try to work it out, you could only grow strong. It's the 21st century, everywhere celebrities. Billboards are the only books we ever read. Your mama knows better than me, I just happen to be one of 3 million rappers playing
and they part in this piece. Raise my fees, I ain't waste my speech. My people keep battling hunger and HIV. You need a pharmacist, not some conscious shit. Turn the music down, talk to your pops a bit. So go ahead, ask your mama what it's all about. Don't look at me, I'm just a rapper, nothing more than that. Then what you doing with a mic in your hand? You gotta give a little something, you a puppet or not? Ask your teacher what it's all about. Don't look at me, I'm just MC and nothing more than that. Then what you doing on the podium selling people phony eyes? Shit like a Zodiac trick. Ask your mama what it's all about. Don't look at me, I want the money, so just cough it up. Then what you doing with a mic in your hand? You gotta make use of the music, you a puppet or man? Muzu mama guti kwenza galani unatembela bomrepa bona bafuni mali sewa. Hey, what you doing on the phone? You selling people phony ass shit like a Zodiac shrink. Yeah. I got a two-verse song for you. I got a two-verse song, but you don't want to. You want a groove that'll offer you the chance to move your shoes. Not your own, the shoes, they were. I got a new verse strong for you. I got a two-verse song for you, but you don't want to. You want a groove that'll offer you the chance to move your shoes. Not your own, the shoes, let's go. I got a new verse strong for you. I got a two-verse song for you, but you don't want to.
You want a groove that'll offer you the chance to do your moves, not your own issues.
Let's go. I got a new verse strong for you. I got a two-verse song for you, but you don't want to.
You want a groove that'll offer you a chance to do your moves, not your own issues, not your own.
About those kids in the street with no bedding or sheets, the cold gets to their feet, their toes begin to freeze, but most definitely my flow stretching the beat. Hey yo, listen to me, I wrote lessons to teach. The person that I am is far deeper than my name. I got the bloods of kings and pharaohs seeping through my vein. A generation of a people surviving the worst situations, like we can define pain. I'm not a biter, I'm a writer for myself and others. I say a Zub's rhyme, I'm only bigging up my brother, bigging up my culture, and it goes much further than.
Toujours dans Les Oreilles Loin du Front, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. À l'instant, c'était To Me and the Volume. Et ce soir, on est avec des membres du ministère des Bonnes et d'Anne.
Ouais, des parents, Delphine et Sybille, pour représenter ici le ministère des Bonnes et d'Anne, un collectif de parents d'élèves mobilisés contre le manque de moyens à Saint-Denis d'abord. Et puis, dont j'ai cru comprendre qu'il s'était un petit peu étendu. Et du coup, pourquoi vous avez choisi ce nom, ministère des Bonnes et d'Anne ?
Alors, on a repris le truc du bonnet d'âne, hein, qu'on met à un élève et puis on le met dans le coin de la classe, on s'en occupe plus. Et pour dire un peu que nos enfants, c'était un peu ce qu'avait fait le ministère, ils les avaient mis dans un coin puis ils s'en occupaient plus. On leur donne pas d'instinct, on s'occupe pas de savoir s'il y a assez de remplaçants. Voilà, c'était pour désigner un peu ce mépris et ce manque total de soucis de l'avenir et de l'éducation des enfants du département.
Mais après, vous avez fait des formes de mobilisation. Enfin, je veux dire, vous avez aussi participé à des réunions. Je crois que vous avez fait des réunions, je veux dire, avec le ministère ou fait un recours aussi devant le défenseur des droits. Enfin, vous avez après fait aussi, disons, il y a l'affichage et puis après, il y a les formes de mobilisation. Vous avez fait à la fois des actions ludiques et des actions plus classiques, en fait.
Ouais, des trucs plus sérieux. Alors d'abord, parce que notre action, elle ce qu'on a fait occuper le terrain, ça s'articulait avec des modes d'action plus anciens sur la ville. En fait, après les absences, là, le jour de la rentrée, il y a des écoles qui ont été occupées, des courriers qui ont été envoyés à l'administration de l'éducation nationale. Il y a eu une AG de ville, parents d'élèves, enseignants, animateurs, parce qu'il y avait aussi le problème de la réforme des rythmes scolaires. Enfin, il se passait pas mal de choses. Il y avait déjà eu des trucs. Et de fait, on a participé aussi à des manifestations, etc. Et puis, comme on était visible, c'est ça aussi, quand on a occupé le terrain, donc non seulement ça nous permettait de rencontrer plein de gens, donc des parents, des enseignants, mais aussi on était disponible pour les journalistes. Ça a pas mal marché. Et du coup, assez rapidement, on nous a proposé un rendez-vous avec c'était la rectrice et le DAZN, qui est le responsable c'est le Dark Vador de l'éducation nationale. Enfin, c'est le responsable départemental de l'éducation nationale. Et voilà. Et donc, on est allé à ce rendez-vous. Mais après ce rendez-vous-là, ce premier rendez-vous, on n'a plus rien eu. Donc, c'était aussi lié, hein, on adressait des courriers, etc., mais on demandait toujours un rendez-vous à la ministre de l'Éducation dite nationale. Visiblement, ça ne lui a pas plu, on n'a jamais eu de réponse. Et puis on a re-eu un rendez-vous, mais par l'intermédiaire de la FCPE récemment, donc, où c'est rendu super ânesse, en costume bleu lamé. Et depuis, le ministère a signifié aussi que désormais, il ne rencontrait plus que son interlocuteur naturel, qui était la FCPE. Donc voilà, on a eu quelques rendez-vous comme ça. Certaines d'entre nous sont allées aussi à des rendez-vous, mais qui avaient été obtenus en tant que représentants des parents d'élèves, pas en tant que ministère des bonnets d'âne. Mais voilà, du coup, on a des rapports assez lointains avec l'administration et ses négociations. Et c'est vrai qu'en même temps, voilà, nous, on ne veut pas non plus devenir des technocrates spécialistes de qu'est-ce qu'on veut négocier, combien de postes exactement, quelles mesures, etc. Et rentrer dans ce jeu des négociations. Notre idée, c'était avant tout de rendre visible et de faire reconnaître la situation dans laquelle étaient nos écoles. Et après, savoir ce qu'il faut faire pour remédier à ça, c'est pas notre boulot. On n'est pas payé pour ça. Donc on n'a pas non plus trop surinvesti ces rendez-vous avec l'administration.
Oui, c'est ça. Pardon. Après, l'idée, c'est vraiment de... On se dit qu'il faut qu'on s'amuse et il faut qu'on rende visible effectivement ce qu'on fait. Donc on est devenu hyper fort en communication. Donc, pour les auditeurs et auditrices qui ont Internet... Il paraît qu'il y en a. Vous pouvez aller, on a un truc qui s'appelle Facebook. C'est visible même si t'as pas d'adresse Facebook. C'est Bonnet d'âne, 93, un truc comme ça. On essaye de relayer et puis aussi de montrer un peu toutes les actions qu'on peut faire. Et on essaye de faire régulièrement des choses un peu marrantes. Par exemple, on est allé... Alors, c'est en partie, peut-être, on se dit que c'est peut-être grâce à nous, mais bon, voilà, soyons fous, quoi. Depuis l'année dernière, la ministre, elle a annoncé un concours supplémentaire pour Créteil, pour essayer de faire venir des nouveaux enseignants sur l'académie, et notamment, évidemment, sur le département. Ça s'est fait l'année dernière, ça s'est refait cette année, et du coup, nous, on s'est dit qu'on allait aller accueillir les futurs nouveaux enseignants de Seine-Saint-Denis pour leur dire « venez, venez, c'est super, venez en Seine-Saint-Denis ». Et donc, on s'est déguisés en tahitiens et tahitiennes. On était magnifiques, et voilà, on était accueillis, on a fait une aloha, une haie d'honneur pour accueillir les futurs nouveaux enseignants. Donc voilà, on fait des trucs comme ça où on rigole en même temps, parce que sinon, franchement, c'est absolument désespérant. C'est-à-dire que chacun... On rigole, mais en même temps... La situation de chacun et chacune d'entre nous, c'est quand même le soir de quand nos enfants y rentrent, le premier truc qu'on leur demande, c'est « Est-ce que tu as eu école aujourd'hui ?» C'est pas « Est-ce que tu as bien travaillé ? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ?» Non, c'est juste « Est-ce que tu as eu une maîtresse ce matin ?» Donc c'est quand même hyper déprimant. Et pour malheureusement pas mal de parents, la réponse c'est non. Et c'est une fois de plus « J'étais au fond de la classe et j'ai rien fait ». Donc voilà, on essaye de contrebalancer ce truc qui est absolument insupportable et où on est chacun désespéré en fait. Fondamentalement, c'est parce qu'on est désespéré qu'on se dit qu'il faut qu'on en rigole et qu'on essaye de faire des trucs un peu marrants.
Ouais, je crois qu'il y a un chiffre qui était sorti aussi sur le nombre, enfin sur la part de moyens alloués à un élève parisien par rapport à un élève de l'académie de Créteil. Que c'était, alors je l'ai noté quelque part, que c'était, voilà, un enfant parisien coûtait plus cher à l'éducation nationale, mais que la différence, enfin c'était supérieur, cette différence, de 47% à un élève de l'académie de Créteil. C'est vrai, j'imagine, mais du coup, ça dit aussi le manque de moyens concrètement. Qui sont alloués, parce que du coup, c'est quoi ? C'est manque de profs, manque de remplaçants. Manque de salles, des bâtiments délabrés, des préfats.
Ouais, alors ça, c'est assez compliqué, cette histoire, parce que, en fait, aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre, donc les enseignants qui dépendent du ministère, donc de l'État. Après, les locaux, au niveau du primaire, ça dépend des municipalités. Ensuite, au niveau du collège, je crois que c'est le département, et puis les lycées, c'est la région. Donc, nous, quand on parle de nos problèmes de locaux, on nous dit bah, « ça, c'est de la faute de votre maire ». Et par contre, hein, pour ce qui est du manque d'enseignants, ça, c'est assez clair, c'est la faute de l'État. Cette différence de dépenses, alors qui est calculée en moyenne, pour le coup, c'est quel que soit le niveau, c'est lié notamment à l'ancienneté des enseignants. C'est-à-dire qu'en Seine-Saint-Denis, on a vraiment des jeunes. À Paris, c'est plutôt de vieux enseignants avec beaucoup d'ancienneté, donc ils coûtent nettement plus cher. Donc on nous dit, c'est bien les jeunes, ils sont dynamiques les jeunes. Donc on dit, ouais, c'est vrai, c'est bien les jeunes, ils sont dynamiques, les vieux enseignants, c'est chiant. Mais, sauf que là, ils sont vraiment très très jeunes. C'est-à-dire qu'ils le disent eux-mêmes, je crois que l'ancienneté moyenne, c'est moins de 5 ans. Enfin, donc en fait, ils ont même un problème de transmission des compétences. Les équipes tournent énormément, dès qu'ils peuvent, beaucoup partent. Et ceux qui arrivent, qui sont tout nouveaux, ils trouvent en face d'eux des gens qui ont 3-4 ans d'ancienneté dans l'école et qui donc sont parfois bien en peine de leur donner des trucs, de leur dire comment ça marche. Donc et puis il faut voir que parfois les problèmes ils se concentrent sur certaines écoles. Là, il y a une école aux Cosmonautes. Alors, en plus, souvent, c'est pas dans n'importe quel quartier. Toi, tu connais mieux la situation, Delphine, mais il y a les trois enseignants titulaires vont partir. Et donc, sur une école de 8 classes, il y a 3 stagiaires cette année et 2 enseignants contractuels qui vont aussi changer l'an dernier. Donc, c'est une école qui va complètement se renouveler et qui, cette année, fonctionnait avec 3 stagiaires, donc des enseignants qui arrivent dans le métier, 2 contractuels, qui, pareil, sont des gens qui arrivent sans aucune formation, et 3 titulaires qui ont très peu d'ancienneté et qui vont repartir. Donc, dans ce genre d'école, c'est hyper compliqué. Les enseignants sont tous paumés, il n'y a pas de repères pour les enfants, les enseignants connaissent mal les enfants. Enfin, voilà, ça crée d'importantes difficultés. Donc, on est content d'avoir parfois des enseignants jeunes, hyper dynamiques, qui font plein de trucs très chouettes, mais parfois, voilà, il y a un manque de... Il y a un problème de transmission de savoir-faire pédagogique.
Oui, il faudrait que ce soit mieux réparti, quoi. Qu'il n'y ait pas que des enseignants...
Il faudrait que ce soit mieux réparti. Et faudrait aussi que... Parce qu'il y en a certains qui restent et qui s'investissent. Et moi, c'est ça aussi qui me déprime. C'est-à-dire que parfois, ça se passe très bien. Et par exemple, un des trucs très positifs à Saint-Denis, c'est que comme il y a plein de gros problèmes, type on manque d'enseignants, il y a je ne sais pas combien de classes sont enseignants par jour, les inspecteurs foutent pas mal la paix aux profs. Donc ça, les instituts, ils nous le disent. Il y a notamment tout un réseau Freinet à Saint-Denis assez développé parce qu'on les laisse développer leur pédagogie Freinet, on les fait pas chier avec ça. Et donc, voilà, il y a des écoles où s'installent des dynamiques positives, il y a des instituts qui mettent des trucs en place, et tous ces trucs-là, ils sont mis à mal par le fait qu'on n'a pas assez de moyens, et ces situations-là, elles sont fragilisées par le fait que, voilà, dans une école où ça fonctionne à peu près, ils vont balancer 2 enseignants contractuels qui vont avoir des gros problèmes avec les classes, les autres enseignants vont devoir user leur énergie à prendre une partie des élèves dans leur classe parce que l'enseignant contractuel s'en sort pas. Enfin, en fait, le ministère aussi épuise les énergies qui sont là et qui font des trucs bien. Et ça aussi, c'est un peu énervant. Et pour ça aussi, on voulait faire des trucs positifs et notamment sur le terrain, là, proposer ces activités alternatives pour montrer aussi qu'à Saint-Denis, on avait des ressources qu'il n'y avait pas ailleurs, des richesses qu'il n'y avait pas ailleurs pour faire autrement, et que si on nous en donnait les moyens, il y aurait des trucs vraiment bien qui se passeraient.
Ouais, peut-être pour poursuivre sur les modes d'action, donc on a des modes d'action comme ça un peu marrants, on essaye de mettre la lumière, on a fait plein de trucs comme ça. Puis il y a un autre truc qu'on a fait, qu'on a commencé en novembre, c'est recueillir les témoignages des gens. On a commencé en novembre 2014. Aller à la rencontre des gens devant les écoles et leur demander, voilà, c'est quoi votre vie en tant que parent, c'est quoi votre vie en tant qu'enfant, on a aussi demandé aux enfants. Et il y a une vingtaine de parents qui ont accepté de témoigner en donnant leur nom. On a fait une saisine du défenseur des droits pour dénoncer la situation de non-droit qu'on estimait être celle de Saint-Denis. Et en fait, la saisine a suivi son cours. Donc là aussi, on a fait un truc. On est allé voir le défenseur des droits. On a attendu. Et en fait, on n'y pensait plus trop. Mais en juin, il a pondu une note où, pour la première fois, il a acté le fait qu'il y avait effectivement une carence de droit, de l'accès aux droits en termes de services publics. Il a dit que pour ce qui était de discrimination territoriale et tout ça, bon, il ne pouvait pas le matérialiser, mais il y avait au minimum cette discrimination, enfin, cette carence sur l'accès aux droits. Donc, et qu'il y avait notamment des choses... En fait, le truc qui a été super, c'est que d'abord, ça a permis symboliquement de reconnaître qu'effectivement, on est dans une situation qui était anormale. Parce que le ministère nous a jamais dit que c'était anormal, n'a jamais fait aucune excuse sur la situation qu'on vivait au quotidien. Donc déjà, il y a une reconnaissance symbolique qui était hyper importante. L'autre chose très importante avec le défenseur des droits, c'est qu'on a enfin eu les chiffres que le ministère de l'Éducation dite nationale n'a jamais voulu nous donner. Et donc, ce qui est apparu clairement, c'est qu'ils ont fait exploser le recours aux contractuels. Donc Sybille, elle en a parlé un peu. Un contractuel, concrètement, c'est quoi? C'est une personne qui est marge à Pôle emploi et à qui on dit du jour au lendemain, bah voilà, vous commencez lundi. La personne, bah, elle n'a pas forcément envie d'enseigner. Enfin, là, c'est pas forcément un truc auquel elle a pensé, mais il faut bien qu'elle le fasse parce qu'il y a éventuellement un risque qu'elle perde ses indemnités. Donc hop, elle débarque le lundi matin et puis voilà, débrouille-toi avec une classe, t'as pas de formation, tu sais pas ce que c'est, ou alors t'as vaguement des souvenirs parce que c'est quand même des jeunes, mais enfin ça reste quand même assez vague. En tout cas moi, on me balancerait aujourd'hui devant une classe de, je sais pas, de 25 élèves, mais je suis évidemment incapable de gérer la classe, quoi. Donc ça a donné des... Alors il y a des fois où ça s'est bien passé, mais dans l'ensemble ça donne évidemment des catastrophes, c'est-à-dire que c'est hyper compliqué pour les enfants de voir arriver des adultes dont ils voient bien qu'ils ne savent pas les gérer, qui ne sont pas capables d'instaurer un minimum de règles. Et donc, il y a eu des véritables catastrophes avec des adultes qui étaient maltraitants, qui étaient grossiers, qui étaient... Voilà, donc ça, c'est des témoignages qu'on a aussi recueillis et dont le défenseur a bien dit qu'il y avait eu un recours massif et absolument anormal à ces contractuels sur Saint-Denis. C'était là où il y en a eu le plus de toute la Seine-Saint-Denis, mais qui était évidemment en train de se généraliser sur la Seine-Saint-Denis. Donc il y a eu pas mal de trucs comme ça où je pense que ça a été un moment important pour nous parce qu'on s'est rendu compte que le ministère prenait au sérieux, d'abord était obligé de répondre et de donner des vrais chiffres. Prenez au sérieux ce qui se disait, parce qu'on a eu d'autres rencontres après avec des gens des services où ils avaient la note du défenseur des droits, donc je pense que ça les a quand même fait flipper, et où, du coup, le défenseur demandait à l'Éducation nationale de lui redonner les chiffres sur comment s'était passée la rentrée 2016, du coup, et l'année scolaire. Est-ce qu'il y avait à nouveau eu recours massif et tout? Donc là, nous, on a relancé avec des nouveaux témoignages, parce que malheureusement, là, évidemment, la rentrée s'est bien passée, on a fait un contrôle citoyen dans toutes les écoles avec plein de parents, plein d'élus. On a surveillé ce qui se passait à la rentrée, la dernière rentrée. Donc ça, OK, ça s'est bien passé. Mais genre, deux mois après la rentrée, même pas, quoi. Dans certains cas, il y avait déjà plus de remplaçants. Parce qu'en fait, ils ne mettent pas les moyens pour qu'il y ait des conditions à peu près correctes de scolarité pour les enfants. Donc hyper vite, il n'y avait plus d'enseignants à mettre. Et de nouveau, ils ont fait appel à des contractuels. Et de nouveau, on a eu des classes où, par exemple, moi, dans l'école de mes enfants, il y a une classe de CP-CE2. Donc, CP-CE2, vous imaginez, ça veut dire que c'est une classe double niveau où tu as des enfants de CP et des enfants de CE2. Bon, c'est le principe de...
Et le CE1 ?
Non, en fait, c'est CP-CE2. Ils sont regroupés. C'est le bordel, mais c'est comme ça. Donc déjà, un enseignant un peu expérimenté, tu dis OK. C'est que ça serait compliqué, mais pourquoi pas. Mais imaginez que ce soit... des personnes non formées qui doivent prendre des classes CP-CE2. Donc la classe en janvier, les enfants de CP, j'ai vu les cahiers, en fait, t'avais 3 pages, et les enfants, ils ont régressé. Les parents, ils nous ont dit, ils savent plus tenir un stylo, en fait. Alors évidemment, on parle même pas de rentrer dans la lecture, puisque c'est ça, normalement, le truc au CP, mais non, mais là, c'était le scandale absolu, quoi. Et donc, ce genre de témoignages, on les a de nouveau récoltés, et on les a renvoyé aux défenseurs des droits. Et donc là, on attend que le ministère veuille bien donner les informations sur les moyens qu'il aurait effectivement mis sur l'école. Parce qu'aujourd'hui, nous, on ne voit pas les moyens, malgré toute la com' que la ministre nous balance sur ce qu'elle fait pour l'école en Seine-Saint-Denis ou en France. Nous, aujourd'hui, on ne voit pas ce qui se passe, quoi. Enfin, ou plutôt, on voit autre chose.
Ouais, j'ai vu que vous interrogiez sur cette classe de CP-CE2. Alors, il faut savoir qu'il y a des écoles où il y a des classes double niveau et les instituts sont volontaires pour ça. Je parlais des instituts du réseau Freinet. Ils aiment bien avoir comme ça des classes double niveau
pour que les grands apprennent aux petits, enfin avoir des logiques d'apprentissage entre élèves. Sauf que souvent, ces classes double niveau, elles correspondent à l'application là, des fameux seuils. On nous dit « Ah, en éducation prioritaire, vous avez de la chance, on respecte des seuils. » Donc, en maternelle, c'est 25 enfants par classe et en élémentaire, c'est 23. Pourquoi moins d'élèves en élémentaire qu'en maternelle, j'ai jamais compris, mais bon, c'est comme ça. Sauf que, en fait, ce que fait le ministère, c'est que chaque année, il calcule le nombre moyen, donc il prend le nombre total d'enfants dans l'école, il divise par le nombre d'instits et il regarde s'il est en dessous, au-dessus de 25, et en fonction, il ouvre ou non une nouvelle classe. Et en fait, il ne regarde pas quel est l'âge des enfants. Donc après, c'est le directeur d'école, c'est l'équipe ou la directrice, c'est l'équipe pédagogique qui gère comment il répartit ses enfants et qui parfois est obligé de faire ses classes double niveau pour réussir à avoir le seuil respecté.
Bah, on est toujours...
Au pays de l'égalité. Écoute ça.
Au pays de l'égalité.
Écoute ça. Une classe sociale de souillons qui met tout son dévolu dans les études pour que son statut d'exclu évolue. Mais vu qu'il est peu possible qu'une masse entière soit promue, plus elle monte vers la culture, plus la culture s'échappe au-dessus. Car le bourgeois gentilhomme est quelqu'un qui cache ses codes. Et il faut qu'il se transforme et rester privilégié.
Au pays de l'égalité.
T'as beau aller au musée et jeter ton dévolu sur un artiste reconnu, il deviendra révolu. Ringardisé du seul fait que t'y as porté la vue. Toi le gueule individu, si comme un sans plus-value. Car le bourgeois gentilhomme est quelqu'un qui cache ses codes. Et il faut qu'il se transforme et reste privilégié.
Au pays de l'égalité.
L'école est le premier lieu où l'égalité fait feu. Mettre au même niveau les gueux et les tenanciers des lieux. Mais les codes restent mystérieux pour les enfants insoucieux qui n'ont pas même parents que ceux de la FCPE. Car le bourgeois gentilhomme est quelqu'un qui cache ses codes. Et il faut qu'il se transforme et reste privilégié. Car le bourgeois gentilhomme est quelqu'un qui cache ses codes. Et il faut qu'il se transforme et reste privilégié.
Voilà, c'était Rossé dans Les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et Céline, ce soir, on est en compagnie de Delphine et Sybille du collectif Le Ministère des Bonnets d'Âne. Ou Les Bonnets d'Âne, je ne sais plus.
Le ouais, Ministère des Bonnets
d'Âne. Ah, c'est le ministère, ouais, c'est ça.
Comme vous le sentez.
Non, c'est comme c'est un peu, c'est un peu fou.
Voilà, qui est un collectif de parents mobilisés contre le manque de moyens alloués à l'éducation dite nationale, et en tout cas à l'école primaire, donc maternelle et élémentaire, à Saint-Denis. Et du coup, tu parlais un petit peu, Delphine, avant de te donner quelques exemples de ce qui peut se passer en classe. C'est vrai qu'on a un peu oublié, tu disais que les enfants peuvent régresser, ne savent plus comment tenir un stylo, etc. Mais on peut avoir un peu oublié, une fois que ça fait longtemps qu'on est passé par là, que bah oui, il faut apprendre à tenir un stylo, qu'on apprend en fait... Au-delà des compétences, on apprend effectivement les compétences, mais on apprend aussi enfin les compétences strictes, compter, lire, etc. Mais on apprend aussi tout un tas d'autres choses quand on va à l'école, et que c'est peut-être ça aussi qui est en jeu avec le manque d'enseignants sur le territoire.
En tout cas, ce qui est clair, c'est que nous, tous les enfants, tous les parents avec qui on a discuté, tous les enfants, ils aiment l'école. Tu vois, en maternelle, en primaire, tous les enfants, ils adorent aller à l'école, ils aiment leur maîtresse et leur maître. Au début, bon, après, ça peut se gâter, mais tu vois, enfin, il y a vraiment un truc, et y compris de la part des parents, d'une attente forte de l'école, de l'importance de l'école, de « il faut aller à l'école ». Voilà, tu vois. Et ce qu'on voit, par exemple, moi, il y a deux classes qui ont été vraiment très impactées cette année, où on a eu, par exemple, sur une classe, il y a eu 11 adultes différents qui sont venus. 11 adultes.
En un an.
Non, en 3 mois.
Ah, en 3 mois.
En 3 mois, c'est-à-dire entre octobre et janvier. 11 adultes, dont certains pas formés, qui partaient au bout de 2 jours, qu'on a fait sortir de la classe. Les enfants, face à ça, je pense que le premier adulte, ça va à peu près. Le deuxième, bon. Le troisième, ils le testent. Et le quatrième, ils savent que c'est pas normal. Et que donc, quand après l'adulte, effectivement, il a des problèmes pour faire se ranger les enfants, parce qu'il d'ailleurs, il ne sait même pas comment faire, mais il y a plein de choses élémentaires, de règles de vie, de choses qu'on apprend parce qu'on est formé pour devenir enseignant, normalement, et qu'on n'a pas acquis. Et bien évidemment que les enfants, il y a tout un cadre qui pète, quoi. Et donc, les autres enseignants nous disaient... C'est incroyable, c'est une classe qui était super l'année dernière, aucun problème de discipline, et ils sont en train de péter les plombs, ils deviennent effectivement compliqués à gérer, et effectivement il va falloir du temps pour remettre les choses en ordre et pour remettre le calme et réapprendre des règles de base de vie ensemble. Mais le truc, ce qu'on nous dit souvent, c'est que nos enfants ils sont difficiles, que nos enfants ils sont violents, que c'est, les enfants de Seine-Saint-Denis sont particulièrement compliqués. Là moi je pense que l'institution elle a une responsabilité première, immédiate, dans la manière dont les choses peuvent déconner sur ces enfants qui n'ont pas de cadre, quoi, qui sont confrontés vraiment à une absence d'institution.
Oui, dans l'école de ma fille, il y avait une classe de CM1 l'an dernier qui avait... Enfin, c'était, en gros, ils avaient leur instit qui était là à mi-temps, puis l'autre mi-temps, des fois, il y avait quelqu'un, des fois, il n'y avait personne, puis c'était pas la même personne, ça changeait tout le temps. Donc, il y a une partie des enfants qui venaient seuls à l'école le matin quand ils arrivaient et qui voyaient que l'instit était absente, et ben ils repartaient en groupe dans la rue. Puis ils allaient s'acheter un kebab en CM1. Donc ça, enfin, voilà, c'est un peu moyen, quoi. Donc, c'est pareil, voilà, on nous dit, ouais, vos enfants sont difficiles, les instits ne veulent pas venir parce que vos enfants sont difficiles, mais effectivement, ils vont le devenir, parce que vu la façon dont ils sont traités, et c'est aussi ça, c'est que les enfants, les parents et les enfants ressentent qu'ils sont maltraités par l'institution, la République avec un grand R et tout ça.
Et du coup, sur le tableau que vous dressez par rapport à cette situation, et notamment le recours apparemment massif à la précarité aussi du côté des enseignants, ça préfigure en quelque sorte aussi, je ne sais pas si ça préfigure, mais en tout cas, ça donne une image de ce que ça peut donner, effectivement, la précarité généralisée dans l'éducation et dans le reste des services publics, d'ailleurs.
Là-dessus, sur la précarité, c'est compliqué parce que quand on a commencé à parler des contractuels, c'était délicat. Je veux dire, il y avait beaucoup de contractuels en poste qui essayaient d'affronter la situation et nous, on dénonçait leur présence. Alors, il faut savoir que le recours aux contractuels dans le primaire, il est vraiment nouveau. Je crois qu'en 2012, y compris en Seine-Saint-Denis, il n'y en avait pas dans le primaire. Et c'est arrivé très vite. Et donc, ce qu'on a appris par le défenseur des droits, c'est qu'en juin 2015, à la fin de l'année scolaire dernière, 40% des contractuels du primaire de France, ils étaient en Seine-Saint-Denis. On n'a quand même pas 40% des élèves dans notre département. Donc voilà, ils étaient chez nous. C'est une nouveauté et ça se fait n'importe comment. C'est-à-dire qu'après notre mobilisation, les mobilisations des différentes villes, etc., en novembre, on a obtenu 9 mesures pour le 93. Parmi ces 9 mesures, il y en avait une qui était celle d'accorder 6 demi-journées de formation aux contractuels. Donc 6 demi-journées, ça fait 3 jours. 3 jours de formation pour enseigner en maternelle, en élémentaire. Tout va bien, quoi. Et ça, c'était quelque chose qu'on a obtenu. Donc voilà, donc ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est que, alors il y a des contractuels pour qui ça se passe bien, c'est des gens qui par ailleurs ont passé le concours, ont envie d'être enseignants, se projettent là-dedans, parfois ont des expériences en tant qu'animateur, animatrice, et c'est vrai que aussi il y a des titulaires qui sont pas de très bons instits. Parfois un contractuel c'est une meilleure affaire qu'un instit titulaire, mais ça n'empêche que globalement, c'est l'idée qu'on peut envoyer n'importe qui devant des enfants. Et à un moment, le mot d'ordre, c'était un adulte devant chaque classe. Pas un enseignant, un adulte, point. Et donc, on considère voilà, qu'on peut être enseignant sans formation, qu'un enseignant peut bien vivre sa condition d'enseignant sans avoir un statut, un emploi stable, parce que c'est ça, c'est aussi la précarisation de ces emplois-là. Donc, enfin... Et puis voilà, les parents l'ont très bien senti, ce que ça voulait dire qu'on nous envoie des gens de Pôle emploi. Et puis pour eux aussi, parce que là, pour le coup, on a eu des témoignages aussi quand on était dans le ministère, de ces contractuels qui ont ressenti la situation hyper violemment. Donc ça, pour nous, c'était pas possible.
Et sur cette question des contractuels, c'est pas du tout anodin. C'est-à-dire que là encore, le défenseur des droits, les chiffres qu'on a eus, c'est 11% des enseignants de Saint-Denis, c'était des contractuels. Donc c'est pas un recours comme ça pour combler des trous, c'est vraiment un espèce de truc institué quoi, pour organiser. Il y a une pénurie organisée, on fait pas en sorte d'avoir des enseignants, de recruter des enseignants, de leur donner les moyens de bosser, et donc on fait appel à des contractuels, et c'est effectivement une précarisation massive. Parce qu'à 11%, mais c'est quand même hyper important. Donc, en sachant que 11%, ça, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'on a eu des écoles où on était à plus de 50% de contractuels, notamment les Cosmonautes. Donc, c'est une cité une grosse cité de Saint-Denis, où ils ont cumulé 60%, je crois, de contractuels sur une école. Donc, voilà. Comment on peut parler après d'enseignement, quoi ? C'est n'importe quoi.
En fait, les chiffres, là, je les ai sous les yeux. Donc, l'an dernier, c'était 13% de contractuels dans les écoles, 7% de stagiaires, donc de gens en première année. Cette année, ça s'est amélioré. On n'a plus que, au début de l'année, 3% de contractuels et 11% de stagiaires, donc d'instit en première année.
Et tout à l'heure, du coup, vous disiez que... ça s'est un peu amélioré à la rentrée, donc en façade. Sur Saint-Denis, parce que vous étiez un collectif de parents mobilisés, mais du coup, ça s'est répercuté sur d'autres villes de Seine-Saint-Denis ?
Ouais, alors du coup, ils ont épuisé un peu toutes leurs réserves, donc notamment dès le jour de la rentrée, on n'a pas eu d'instit manquant, mais on a su que les brigades de remplacement, elles étaient épuisées. C'est-à-dire tous leurs remplaçants titulaires qui sont prévus pour aller d'école en école pour faire les remplacements étaient en poste le jour de la rentrée. Il n'y avait plus de réserve. Et donc là, cette année, on a eu des problèmes de remplacement à Saint-Denis. Il y a des écoles où il y a eu des gros problèmes, donc notamment sur les compléments aussi des mi-temps des stagiaires. Mais ça a été pire, en tout cas, dans les autres villes, donc notamment Saint-Ouen, Montreuil. Ils ont ressenti une très forte dégradation de leur situation. Aussi Aubervilliers, Bobigny, Pantin, enfin plein. Et donc, l'effet positif de ça, c'est qu'on a essaimé. Donc, on a un ministère des bonnets d'âne maintenant à Saint-Ouen et un à Montreuil. Donc ça, on est hyper contents. Mais c'est aussi que la situation de ces villes-là s'est dégradée. Et pareil que les parents... Enfin, il y a un truc qui est dingue en Seine-Saint-Denis, c'est que la plupart des parents ont dans leur téléphone le numéro de l'inspection. Je ne crois pas que ça se fasse ailleurs. C'est-à-dire, on nous dit « Ah, mais en Seine-Saint-Denis, c'est compliqué le rapport avec les parents, ils ne comprennent pas ce que c'est que l'école. » N'empêche qu'on sait tous, moi, je dépends de la circonscription 2 de Saint-Denis, mon inspectrice, c'est Madame Chose, j'ai réussi à récupérer son 06. « Ah, t'as son 06, passe-moi son 06. » Parce que quand un instit est absent, comme ça, on appelle tous. Voilà, et ça, c'est valable maintenant dans la plupart des villes de Seine-Saint-Denis. Et les parents, donc, ils ont tous expérimenté ça, appeler l'inspectrice, envoyer un courrier, être reçu par l'inspection. Et si on s'énerve un peu plus, on est reçu par le DAZEN ou le numéro 2 de la direction départementale. Et puis après, on voit qu'on n'obtient rien, etc. Et donc voilà, bah, petit à petit, les gens, ils se demandent comment on fait pour être plus visible, frapper plus fort, avec des modes d'action diversifiés. Là, à Saint-Ouen, ils sont assez géniaux pour mettre en place des compteurs des absences non remplacées, faire une cartographie de tout ça. À Montreuil, Ils ont fait des opérations écoles désertes qui ont aussi fonctionné dans le quartier Floréal, Saussay-Courty de Saint-Mie. C'est des quartiers où ils arrivent à avoir des mobilisations locales hyper fortes, c'est-à-dire des journées où il y a 1000 parents qui ne mettent pas leurs gamins à l'école pour marquer le coup. Voilà, donc il y a ces modes d'action diversifiés qui se mettent en place. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est souvent le silence en face de l'administration qui, quand elle reçoit les parents, aussi disent « Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, on est en train de faire tout ce qu'il faut pour vos enfants. » Et quand on leur répond, c'est grave, parce que si vous faites tout ce qu'il faut et que la situation reste celle-ci, on les met en face de la réalité. Enfin, ouais, c'est vrai, c'est pas vraiment normal. Mais bon, il faut comprendre que c'est difficile de faire venir les gens ici. C'est difficile. Vos enfants sont difficiles.
Donc ça, c'est l'argument ultime, en fait. C'est les gens veulent pas, enfin les enseignants, aspirants enseignants, etc., ne veulent pas venir.
Il y a un autre argument. Il y a un autre argument, c'est tout ça, c'est de la faute de Sarkozy. Donc ouais, Sarkozy, ça fait quand même quoi ? C'est avant 2012, donc c'est 4-5 ans maintenant. Hein. Je perds. Donc première année, ok, oui, bien sûr, c'est aussi de la faute de Sarkozy. Là, c'est un argument qu'on en a un peu marre quoi, d'entendre cet argument. Ça fait 5 ans que ce gouvernement est au pouvoir, qu'ils nous ont fait des promesses comme quoi l'école, c'était leur priorité. Je crois que dans la promesse de campagne, bon, c'est pas la seule qui l'aura pas tenue, mais il y avait 60 000 postes... pour l'éducation nationale, on sait déjà que ça ne sera pas tenu. Voilà, c'est les derniers chiffres qui sont sortis, ça ne sera pas tenu. Et ils continuent de nous dire que tout va bien, tout va mieux et que ça va aller encore mieux. On ne peut évidemment plus les croire.
Mais en plus, il y a toujours des réformes qui sont annoncées de l'éducation. Enfin, j'ai l'impression que tous les trois mois, on est en train de parler de la grande réforme de l'éducation nationale, la refondation de l'école, les rythmes scolaires. Enfin, il y a toujours plus, se sont ajoutés après les attentats, les valeurs de l'école, les valeurs de la République, la laïcité. Enfin, on a l'impression que ça n'arrête pas.
Alors nous, les valeurs de la République et la laïcité, ça nous a... Enfin... fait rire ou énerver. En gros, on a dit, si vous voulez que nos enfants viennent à la République, déjà que la République vienne à eux sous la forme d'un instituteur ou d'une institutrice. Voilà, déjà. Et puis les autres réformes, alors l'éducation prioritaire, ça, parce que ça, c'est un troisième argument. Donc il y a, premier argument, c'est difficile de faire venir des gens chez vous parce que chez vous, c'est les sauvages. Le terme sauvage a déjà été employé par quelqu'un de l'éducation nationale. Deuxième argument, vous vous rendez pas compte de tout ce qu'on fait pour vous alors que Sarkozy vous maltraitait. Et troisième argument, mais vous en avez déjà plus que les autres. Donc ça, c'est l'argument éducation prioritaire. Donc notamment, nous, après notre mobilisation, notre député Mathieu Hanotin nous a dit « Je travaille pour vous, tout Saint-Denis sera en éducation prioritaire une fois qu'on passera des ZEP au REP ». Et effectivement, tout Saint-Denis est passé en éducation prioritaire. Sauf que, en fait, c'était pas très clair ce que c'était que l'éducation prioritaire. C'est-à-dire, t'es contente, t'as ta médaille, et puis après, qu'est-ce qu'il y a derrière la médaille ? On nous avait vendu des maîtres supplémentaires dans les écoles. Donc, c'est l'opération plus de maîtres que de classes. Il y a un maître en plus qui organise des trucs un peu spécifiques, des coordinations, notamment école, collège, pour le passage en sixième, etc. Et puis, en fait, on n'en a pas assez, en fait, des instits. Donc, on va réserver les maîtres supplémentaires à ceux qui sont en REP plus, et puis après, mais on en a quand même pas assez, donc à ceux qui vont écrire un projet, je sais pas quoi, spécial, enfin bref, donc on a eu le label, mais il y avait rien derrière, donc ça, l'éducation prioritaire, on l'a eu un peu dans l'os, et puis après, il y avait... Donc la refondation de l'école, c'est notamment modifier les règles de calcul de partage du gâteau. Donc ça avait été notamment dénoncé par la Cour des comptes, le fait que quand il y avait des créations de postes, leur allocation était liée à des négociations assez mystérieuses qui aboutissaient généralement au fait que les académies déjà les plus privilégiées ont récupéré plus que les autres, et notamment que le 93 était parmi les derniers servis. Et ça, il faut reconnaître que ça s'est amélioré. C'est-à-dire, sur les dernières créations de postes, il y en a eu une grosse part. Sauf que, en fait, des créations de postes, il y en a eu beaucoup moins que ce qu'on nous promettait. Donc cette grosse part, en réalité, c'est pas grand-chose, et ça permet même pas de suivre l'évolution démographique du département.
Et alors, et comment vous vous êtes traités comme parents ? Parce que tu disais, on nous explique les choses, donc c'est condescendance. Est-ce que les parents de sauvages, c'est des sauvages ?
Ouais. Dès qu'il y a occupation d'école, il y a des menaces immédiates. vraiment, moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. Ils essayent de faire une espèce de pression sur le fait qu'on serait nous violents, alors que sans reconnaître la violence de l'institution, c'est toujours voilà, il y a une espèce de truc de où ils nous mettent la pression pour qu'on n'ait pas ce genre de d'organisation. Et moi, je trouve vraiment qu'il y a un mépris mais absolu, mais ils s'en rendent, c'est-à-dire ils nous disent des trucs, ils se rendent même pas compte, quoi. Donc ils nous disent en gros que si ça se passe mal, c'est aussi parce que les parents sont démissionnaires, parce que les parents donc seraient démissionnaires, parce que les parents en fait s'intéressent pas à l'éducation de leurs enfants, parce que les voilà, c'est la faute des parents. Il n'y a jamais de remise en cause par l'institution de la violence que elle fait subir aux parents, et il y a un mépris absolu des parents du fait que les parents, effectivement, il y a plein de parents qui parlent pas bien français, qui comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Enfin voilà, que ça peut être compliqué d'aller à un conseil d'école ou d'aller à une visite d'école, et que s'il n'y a pas un travail qui est fait aussi pour faire en sorte que l'école elle soit plus accueillante pour les parents, en prenant en compte la diversité, les difficultés, les origines, enfin plein de trucs qui sont évidents mais qui sont pas du tout pris en compte par l'éducation nationale aujourd'hui. Moi, je trouve ça hyper violent. Quoi, le discours qu'on a régulièrement, qu'on nous renvoie régulièrement sur nous, parents. Alors, nous, parents, moi, je suis une blanche relativement éduquée, donc je peux leur répondre et je peux leur dire que c'est insupportable et j'ai les armes pour le faire. Mais il y a plein de parents qui se retrouvent face à une espèce de truc hyper violent pour lesquels c'est compliqué de réagir.
Ouais, en gros, ils comprennent pas, par exemple, que pour un parent ouvrier, c'est plus de négocier de pouvoir être présent à la réunion parent-prof à 17h que pour un parent cadre ou des professions de la santé. Enfin, voilà, il y a des contraintes professionnelles très différentes pour les différents parents. Il y a la question de la langue aussi qui se pose. Et voilà, c'est toujours de la faute des parents. Les parents sont démissionnaires, les enfants sont difficiles. Quand des parents mènent des actions pour demander des instits, c'est pas qu'ils sont investis dans l'école, c'est qu'ils sont violents. Voilà. Donc il y a une espèce de gestion, moi des fois je dis, on trouvera peut-être que le terme est fort, mais colonial en fait de l'école dans ces départements. Et parfois on se pose la question de savoir, est-ce qu'ils ont vraiment envie que tous les enfants du 93 aient les mêmes chances que les enfants parisiens par exemple ? Ou est-ce que finalement c'est pas confortable que certains enfants, leur CP passe sans instit et qu'ils sachent pas lire, et puis qu'il y ait quand même une frange de la population qui reste non diplômée et qui continue à faire le sale boulot ? Parfois, on se pose vraiment la question.
Et vous parleriez de racisme d'État, du coup, pour qualifier cette politique où vous en tenez à la rupture d'égalité dans le service public de l'éducation nationale, comme le défenseur des droits.
Moi, je sais pas si c'est moi c'est Delphine. Hein, je sais pas si j'irai pas jusqu'à parler de. C'est pas un complot, c'est pas un truc. Mais de fait, on a une rupture d'égalité, ça c'est évident. On n'est pas traité de la même manière. Après, et ils font pas en sorte qu'on le soit, et ils mettent pas les moyens. Mais c'est pour, à mon avis, plein de raisons. C'est pas, c'est parce que ça, voilà, parce qu'on n'est pas, on n'a pas beaucoup d'électeurs, parce que on sait pas leur fonds de commerce, quoi. Donc, je pense que c'est un gouvernement qui se dit de gauche, mais qui est plus de gauche. Donc, les classes populaires, c'est pas leur sujet. Donc, pour plein de raisons, ils ont délaissé nos quartiers et ils vont pas bosser sur nos quartiers. Mais ils sont hyper loin de notre réalité. Quand on discute avec des gens des ministères, mais c'est incroyable, quoi. C'est des technocrates qui sont sans doute très forts, mais qui n'ont, je pense. Enfin voilà, je pense qu'on est très loin, quoi, et qu'on n'a effectivement pas l'impression de vivre dans le même pays. C'est pour ça qu'on parle de l'éducation dite nationale, c'est que pour nous, cette éducation n'est pas nationale.
En fait, eux, leur réponse, par exemple, c'est de dire « Regardez, en tendance, les créations d'emplois, ça monte. » C'est un peu comme les inégalités de salaire entre hommes et femmes. « Regardez, d'ici 50 ans, si ça continue comme ça, on y sera. » Bah, sauf que, moi dans 50 ans, les augmentations de salaire, merci, et mes enfants dans 50 ans, pour l'école, voilà. Et donc, ils nous répondent comme ça sur des chiffres hyper globaux, ils sont hyper loin, et je pense, moi là où je pense qu'il y a un racisme, qu'il soit social ou autre, qui joue, c'est qu'on sent qu'ils sont complètement incapables de se projeter, de se mettre à la place des parents et des enfants. Et des fois, on a envie de leur dire « Non, mais non, c'est pas des sauvages, c'est des enfants comme les vôtres. Le vôtre, il est plus blond, il est plus en bleu marine, mais c'est les mêmes, en fait. Et ils ont les mêmes besoins éducatifs. » Mais ça qu'on ressent, c'est cette espèce d'étrangeté de part et d'autre, qui est assez impressionnante.
Et chez les bonnets d'âne, il y avait des... Enfin, c'est plutôt des gens qui arrivent avec une formation militante ou une base militante ou un engagement soit syndical ou dans d'autres collectifs avec un petit peu des armes pour lutter.
C'est
ou pas
hyper variable. On avait des gens qui venaient des intermittents, donc des gens qui venaient de la lutte contre le sida, quelques-unes. Enfin, et puis des gens qui n'avaient jamais milité. Non, enfin, je pense que c'était quand même hyper variable et qu'on a aussi appris sur le tas. Moi, par exemple, je ne savais pas me servir de Twitter, Facebook et j'ai appris. Mais voilà, je pense qu'on n'était pas hyper pro et qu'on a passé vachement de temps pour un certain nombre d'entre nous. Et on s'est professionnalisé sur certaines choses, par exemple sur des trucs techniques qu'on maîtrise vraiment bien maintenant. Mais au départ, on n'était pas des militants professionnels et je pense que... Fondamentalement, moi, je préférais faire autre chose. Hein.
Ouais, je crois que... Je ne saurais pas dire s'il y en avait parmi nous qui n'avaient vraiment jamais milité, mais on avait milité dans des trucs assez variés. Voilà, syndicaux, associatifs, voilà, les intermittents, des trucs avec aussi des compétences différentes. Être capable, par exemple, de mener une action qui, esthétiquement... a de la gueule. Moi, ça, je ne savais pas du tout faire. Après, manier les chiffres pour faire un truc pour le défenseur des droits, pour discuter de la discrimination. Voilà, moi, c'était plus mon rayon. Il y en avait qui s'y connaissaient plus sur tout ce qui était réseaux sociaux, communication avec les médias. Donc, on avait des compétences assez complémentaires.
Et par rapport aux associations de parents d'élèves, du coup, vous avez été un petit peu en contact avec ces assos ou...
Ouais, oui. Enfin, alors, il faut savoir que, quand même, à Saint-Denis, c'est peut-être pour ça que le ministère a toujours cette impression. Par exemple, à Saint-Denis, la FCPE est assez faible. Les gens adhèrent peu à la FCPE, même pour élire des représentants. Enfin, moi, dans les écoles de mes enfants, il y a une seule liste à chaque fois qui est péniblement constituée. Les gens n'y votent pas. Comme en plus, il n'y a qu'une seule liste, on les comprend. Donc c'est vrai qu'il y avait une présence... Institutionnellement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Après, les parents sont hyper réactifs. Et quand on lance des trucs, il y en a toujours qui sont prêts à se lancer dans l'action. Après, c'est difficile aussi dans la continuité. C'est-à-dire, je pense que, typiquement, s'investir dans une association de parents d'élèves, ça demande de pouvoir régulièrement être présent à des réunions, entretenir des adresses mail, avoir une activité régulière. Et ça, on sent bien que... Mais je pense que ça a à voir aussi dans notre société avec l'intensification du travail, toutes les pressions que les gens subissent de tous les côtés, qui font que cet investissement continu, il est difficile. Par contre, il y a des moments où on faisait une action, on se réunissait après et les gens, ils étaient vraiment prêts. Enfin, on a quand même occupé une autoroute, investi la Légion d'honneur, qui est un truc qui appartient au ministère de la Justice. Et franchement, ce n'était pas les gens les plus militants expérimentés qui étaient les plus volontaires pour ces actions-là. Il y a vraiment des énergies. Après, je ne connais pas l'histoire de tous les parents, et y compris éventuellement dans leur pays d'origine, mais il y a plein de gens qui sont prêts à beaucoup bouger sur ces questions-là.
Et qui se posent, par exemple, la question de la légalité. Enfin, ça, c'est une question que vous vous posez ou... Je veux dire qu'on puisse vous opposer la légalité de certaines, l'illégalité plutôt de certaines actions de mobilisation auxquelles vous auriez pensé ou en fait.
Ça, on nous l'oppose. On nous dit constamment on dit constamment aux parents qui sont violents. Au début de l'année, là, il y a eu un rassemblement devant l'inspection. Les parents sont montés dans la cage d'escalier qui mène à des bureaux et il y a eu une plainte qui a été déposée par le personnel de l'éducation nationale. On nous a dit que c'était pas légal. Alors ça, c'est l'intérêt aussi de la décision du défenseur des droits, c'est qu'on dit mais vous respectez pas le droit à l'éducation de nos enfants. Donc, droit contre droit, envahir un escalier, franchement. Et les parents, en général, quand on discute des modes d'action, ne se posent pas la question de la légalité, qui est quelque chose qu'au départ, on s'est posé la question, parce qu'on s'est dit qu'il y avait des gens pour qui ça pouvait être compliqué. Et en fait, les parents ne se posent pas cette question-là. c'est aussi la, enfin c'est dire aussi la hauteur du problème qui est vécu par par les gens. Ils ressentent vraiment, et ça c'était un truc qui était bien aussi dans les discussions, c'est de se dire les uns les autres que c'était pas normal ce qu'on vivait. Moi je me souviens d'une maman qui venait de Roumanie et qui disait, je comprends pas là qu'il y ait pas des instituts tous les jours. Nous en Roumanie l'école c'est hyper carré, tout ça. Est-ce que c'est normal là ce qui se passe, le fait que ça change et tout? Je lui dis ben non, c'est pas normal quoi. Et de se dire ensemble, c'est pas normal ce qu'on vit, et on a le droit de lutter contre ça. Et la question de la légalité, c'est très secondaire.
Voilà, on est en plateau avec deux membres du ministère des Bonnets d'Âne de Saint-Denis, toujours dans les oreilles loin du front.
Nettoyer.
Ça veut dire quoi nettoyer ?
On va faire le grand nettoyage.
Qu'est-ce qui doit être nettoyé ?
La France. La France. La France.
Comme un joueur, comme un avant-centre de trappe, fallait que j'esquive, que j'échappe à la trappe, fallait qu'à tout berzingue je calque, je fuis. Et c'est depuis que le long des berges du canal du Midi, à la vitesse des saisons de Vivaldi, à mettre au une flottille d'impuissants m'a dit t'es pas des nôtres, même avec ton accent, et il provoquait des bouchons derrière une Jeanne à califourchon. Il disait France, j'ai compris le pamphlet, j'ai compris qu'il voulait m'enfler. Et c'est vrai, j'avais pas les traits d'un fromage de moine, pas la tronche du patrimoine. Et comme l'aurait dit Nicolas S. Eureka, on en tient, il a le profil adéquat. Et ça fait tic 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 par avance, j'ai pris mes clics, mes claques et mes distances. Tic tic tic, t'as d'urgence, y'a toujours un connard qui veut sauver la France. Si tous les chemins mènent au pape, moi j'ai tout compris à la première étape. J'ai pas fait la tortue comme dans les fables. Me suis dit la petite, je m'aurais pris pour un anglais. J'apercevais le long des quais des bateaux prêts pour un aller sans ticket. Pour une croisière, et là ça se tient. Tu marches pas, non, tu cours comme un Éthiopien. Qui a dit assez de jambes, allez, c'est à vous. Demain sortir à la façon Sydney Govou. Et dans ce marathon où j'étais pas de Steve Hoffman, j'ai couru, c'était pas le marathon de Manhattan. C'était une autre vie qui sauvait ceux qu'on passait chez l'éducation physique, eux. Il fallait du souffle mazette, de cœur et les trois poumons d'un athlète. Et ça fait et par avance, j'ai pris mes clics, mes claques et mes distances. Tic tic tic, et t'as d'urgence, y'a toujours un connard qui veut sauver la France. Tic tic tic, et par avance, j'ai pris mes clics, mes claques et mes distances. Tic tic tic, et t'as d'urgence, y'a toujours un connard qui veut sauver la France. J'avais pas envie de me coucher, votre Altesse, ni une ni deux, pas plus que ni quoi ni caisse. J'ai dit je trace et quand je vais déraper, même les souvenirs ne pourront pas me rattraper. Ah je peux dire qu'est-ce que j'ai couru quand j'ai vu que l'affaire était courue. D'avance pour moi et pour ceux de mon espèce, obligé de faire parler la vitesse. Moralité, il nous faut des jambes en béton, et quand ça craint tu peux leur dire pardon. Et en cas de république en carton, on est prêt pour le marathon. Y'a toujours un Justin Bridou qui s'approche et te dit t'es doux. À tes doux j'ai dit que ça fait la différence. Y'a toujours un connard qui veut sauver la France. Et ça fait tic 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 et par avance, j'ai pris mes clics, mes claques et mes distances. Tic 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 et t'as d'urgence, y'a toujours un connard qui veut sauver la France. Tic 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 et par avance, j'ai pris mes clics, mes claques et mes distances. Tic 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 et t'as d'urgence, y'a toujours un connard qui veut sauver la France. Et par avance, j'ai pris mes clics, mes claques et mes distances. Tic tic tic, et t'as d'urgence. Y'a toujours un connard qui veut sauver la France. Et ça fait tic tic tic. J'ai pris mes clics, mes claques. Et ça fait tic tic tic. Y'a toujours un connard qui veut sauver la France. Fais!
Yeah.
Toujours dans Les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'était à l'instant Majid Cherfi. Et on poursuit et on va terminer notre entretien avec Delphine et Sybille du ministère des Bonnets d'Âne de Saint-Denis.
Ouais, alors du coup, vous avez créé le ministère des Bonnets d'Âne après la rentrée 2014. Là, on est en 2016. Qu'est-ce que ça veut dire de se mobiliser comme ça dans la durée? Comment est-ce que on peut passer un petit peu à l'étape supérieure? Parce qu'en fait, les réponses que vous avez eues, effectivement, ça colmate les brèches, mais c'est pas du tout à la hauteur des attentes et de ce qui devrait juste avoir lieu, quoi.
Ben, c'est pas facile de passer à la vitesse supérieure. Parce que quand on a démarré en occupant un terrain pendant 15 jours, 24 heures sur 24, 3 semaines, pardon. c'est pas évident de faire plus. Hein. Un truc dont il faut avoir conscience, par exemple, c'est qu'on peut pas faire grève d'être parent d'élève, en fait. Quand on est parent d'élève et qu'on se mobilise, on est toujours parent. Donc on a le boulot, on a toujours les enfants, et puis en plus... On se mobilise. On ne peut pas faire grève pour profiter de la grève, pour se mobiliser davantage. Donc c'est effectivement difficile dans la durée. Je crois que ce qu'on gagne, c'est qu'on est de plus en plus efficace, qu'on s'organise de mieux en mieux, qu'on a tissé des liens assez précieux avec, avec d'autres collectifs, syndicats, associations. Et donc on réussit quand on veut agir. À agir peut-être davantage au bon moment, à se préparer plus rapidement, à mieux cibler. Et puis après, la question de l'efficacité politique pour obtenir vraiment des choses, les espoirs sont pas démentis. Donc moi maintenant, ce que je trouve aussi plus dans ce militantisme-là, c'est de rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés sinon, et du côté des enseignants et du côté des parents, de découvrir aussi des pratiques des enseignants, enfin de mieux savoir ce qui se fait de bien aussi dans nos écoles, éventuellement d'essaimer un peu ces trucs-là qui sont par exemple des pratiques pédagogiques marginales, etc. Mais c'est vrai que ça a aussi été l'occasion de parler aux enseignants, parce que à l'école, parler entre parents et enseignants, c'est assez rare. Et là, en fait, la plupart de nos actions, on les a menées parents et enseignants ensemble, des parents dont on prétend qu'ils sont très loin de l'école et des enseignants qui vont bloquer ensemble la bretelle d'accès à l'autoroute A1, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis aussi de se découvrir entre parents. C'est-à-dire, il y a des parents avec qui on fait connaissance et, comme Delphine qui est là aujourd'hui, on devient amis, mais il y a aussi des parents avec qui on ne deviendra pas forcément amis, mais on se rend compte qu'on a des causes communes qui dépassent des styles de vie qui peuvent être extrêmement différents et que des choses qu'on n'arrête pas de nous envoyer dans la tête, je repense à la couverture du Figaro magazine, la Molenbeek sur scène avec les deux femmes voilées en tête, où on se rend compte qu'entre mères voilées, mères pas voilées, on a en commun que pour nous c'est important que nos enfants, y compris nos petites filles, sachent lire et aient un métier plus tard, quoi. Donc ces choses-là, c'est vraiment très, c'est aussi vraiment très précieux à un moment où le gouvernement qu'on a en face a aussi comme stratégie d'essayer d'introduire des divisions au sein des, notamment sur ces territoires,
Non, pas mieux. Tu as été formidable.
Est-ce que par exemple, vous auriez des leviers de recours devant la justice pour faire condamner l'État? Éventuellement, quitte à monter une action qui permettrait ensuite d'attaquer une décision administrative devant le tribunal administratif et de faire condamner l'État.
Ben là, pour l'instant, on réfléchissait, mais il me semblait que la Cour européenne des droits de l'homme, c'était peut-être plus adapté, parce que le tribunal administratif, ça a déjà été fait, les parents ont eu gain de cause. Mais en fait, on leur a demandé, en gros, on leur a accordé des dommages et intérêts, mais sous réserve qu'ils fassent la preuve de l'argent que ça leur a coûté. Donc, par exemple, babysitter, cours particulier, sauf que dans le 93, la plupart des parents, c'est pas comme ça qu'ils s'arrangent, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer la babysitter et les cours particuliers, mais c'est en se mobilisant eux-mêmes, en gardant eux-mêmes leurs enfants, ou en essayant eux-mêmes de d'aider leurs enfants. Dans les leçons et tout ça, et du coup ça avait été, enfin à la fois ça avait marché et en même temps avec un résultat, un pouvoir de nuisance assez limité sur l'État. Donc là, ce qu'on attend aussi un peu, c'est qu'il y a eu récemment des évolutions, mais pour l'instant, je crois qu'on ne peut pas s'en saisir en tant que collectif autour des class action, quoi, d'avoir la possibilité de faire des class action.
Des actions de groupe.
Voilà, des actions de groupe sur ces questions de manquement des services publics. Et d'accord. Puis on va voir pour la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, on y réfléchit. Il y en a qui sont bien, bien motivés pour ce genre d'action de recours juridique.
Ok. Eh bien, bonne route au ministère des Bonnets d'Âne. Merci d'être passé dans notre studio.
Merci.
Et puis vous avez du coup un site, un Tumblr et surtout une page Facebook très réactive.
Ouais, allez-y, c'est super. Et c'est vraiment, allez-y, même si vous n'avez pas de Facebook, c'est visible. Hein. Donc n'hésitez pas, vous avez plein de super images. Le Tumblr, c'est un truc spécial, mais il y a un lien depuis le Facebook. Et là, vous aurez la revue de presse, toutes les actions qu'on a pu mener depuis 2014, des liens avec d'autres collectifs et d'autres groupes qui se mobilisent, et puis les actualités sur ce qu'on fait, sur les choses voilà, qui se passent et tout. Et il est vraiment bien fait. Je le dis parce que ce n'est pas moi qui m'en occupe.